Cela fait quelques jours qu'on n'avait pas parlé d'un magazine papier. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui à nouveau, puisque après avoir parlé de pas mal de magazines ces derniers temps, grâce à vous, tipeurs, je peux acquérir certains magazines pour vous les chroniquer dans l'émission. Le dernier à passer sur le grill, c'est Video Gamer Retro, le 4e numéro, très exactement, qui couvre la période de février-mars 2018. Alors c'est le pendant rétro, rétro gaming du magazine Video Gamer, dont on a déjà parlé dans cette émission. Le troisième numéro m'avait assez déçu, je l'avais acheté et ça m'avait, bon, ça m'avait pas plu, vraiment pas plus que ça en tout cas. Je trouvais que quand on avait un tant soit peu de culture vidéoludique, et ben bon, c'était assez creux. Mais j'ai été agréablement surpris par ce numéro 4 et donc je vais y revenir en détail sur ce qui m'a plu et sur ce qui m'a déplu. En couverture, en tout cas, on nous annonce... Alors il y a beaucoup de choses sur la couverture, énormément de choses. Un dossier donc sur 32 ans de jeux Dragon Ball. Bon là en ce moment c'est partout. Là il y a le dernier JV qui vient de sortir aussi. Tout le monde fait son dossier sur les jeux Dragon Ball. Ce qui est un peu normal avec la sortie de Dragon Ball Fighters qui fait l'événement. Ça, on va pas leur jeter la pierre. Et puis, c'est toujours aussi un argument de vente assez percutant. On va pas se le cacher. Ce qui me rappelle les années 90, quand les magazines faisaient des couves DBZ à tire l'haricot. On nous annonce en couve, comme accroche, un dossier Game & Watch, un dossier sur les débuts de Final Fantasy, un dossier Silent Hill 2, un dossier Atari Jaguar... Au banc d'essai, nous avons la Mega Drive Mini, un autre dossier Megaman, la ColecoVision, l'actu du jeu vidéo en 1987, 1997 et 2007. C'est assez copieux, j'ai envie de vous dire, c'est assez copieux. Et si on se plonge plus précisément dans le sommaire du magazine, il y a aussi un dossier Indiana Jones, un dossier Myst, bref, il y en a partout, et on ne sait plus où regarder quelque part, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Sur ce que j'ai retenu, sur ce qui m'a plu dans ce numéro, le dossier Dragon Ball tout d'abord, qui est vraiment l'un des mieux fichus du moment, vu que toutes les parutions y vont de leur dossier Dragon Ball. Celui-ci est plutôt bien fichu, il est signé Damien Duvaux. Il revient sur l'historique des jeux Dragon Ball et nous dit notamment au début de ce long papier, je cite, « Après des jeux électroniques développés pour la compagnie Epoch, c'est en 1986, afin de coïncider avec la diffusion de la série animée, que sort Dragon Ball, Dragon Daihikyu, premier jeu console adapté de la licence. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas développé pour la Famicom de Nintendo, mais pour la Super Cassette Vision d'époque, une console produite à partir de 1981. Et à la différence des futurs jeux de la saga, ici on se retrouve en face d'un shoot'em up en scrolling vertical très sympathique, où l'on joue Sangoku sur son nuage magique partant à la recherche des boules de cristal. » Ce petit extrait est noyé effectivement dans un flux d'informations assez dense, mais c'est assez bien. Alors si vous connaissez par cœur l'historique des jeux Dragon Ball, comme toujours, vous n'apprendrez pas forcément beaucoup de choses, mais ça fait une belle piqûre de rappel, et moi-même, il y a 2-3 jeux que j'avais complètement oubliés, que ce dossier a rappelé à mes bons souvenirs. Donc c'est un excellent dossier Dragon Ball, donc félicitations à Damien Duvaux pour cela. On trouve aussi un dossier, donc le dossier ColecoVision, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bien affiché en accroche sur la couverture du magazine, signé Jean-Marc Del Prato, et assez excellent. Alors pour les vieux comme moi, qui ont connu cette époque d'autant plus, mais je pense que ça peut vraiment, pour ceux qui n'ont pas connu du tout cette console, ça peut vous éclairer sur 2-3 points assez pertinents. Notamment, on nous dit dans cet article que, méconnue et rarement citée parmi les consoles les plus prisées du panthéon vidéoludique, la ColecoVision n'en est pas moins une machine emblématique du début des années 80. Avec une histoire fugace mais formidablement ancrée auprès de tous les grands acteurs de l'industrie, à commencer par Nintendo et Atari. On apprend aussi dans cet article qu'en 1932, Maurice Greenberg, un immigré d'origine russe, crée la société Connecticut Laser Company qui se spécialise, comme son nom l'indique, dans la distribution de cuir et d'accessoires pour cordonniers. Cette société deviendra, bien sûr, X années après, ColecoVision. On nous dit aussi que cette console était un monstre de puissance pour l'époque, car elle était capable d'afficher une définition de 256 pixels sur 192. Et si certains d'entre vous, derrière vos oreillettes, si vous avez une télé 4K et le matos qui va avec, excusez-moi de vous dire, mais pas besoin de vous pavaner. 256 pixels sur 192, vous vous rendez compte ? Vous ne pouvez pas lutter. Définitivement, non. Bref, blague mise à part, c'est un excellent dossier qui, pareil, m'a rappelé quelques faits très importants sur cette console qui, effectivement, n'est pas la plus traitée hein, dans la presse rétro. Bon, l'article sur Silent Hill 2, signé Christophe Collet, est excellent. Là, je vais faire mon vendu, puisque Silent Hill 2, c'est l'un de mes jeux préférés de la vie, de la galaxie, de la mort et tout ce qui s'ensuit. C'est un jeu qui m'a profondément marqué, un jeu d'une intelligence rare qui procure des émotions vraiment que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, Christophe Collet revient sur ce jeu. Un jeu, dit-il, magistral et fou, le meilleur épisode de la série, complètement d'accord avec lui. Alors, ça reste un petit peu en surface, mais ça reste quand même très explicatif hein, pour ceux qui voudraient un petit peu connaître ce jeu ou se rappeler quelques bons souvenirs, hein, si vous ne l'avez pas refait depuis sa sortie originale hein, sur PlayStation 2. Deux petits défauts à mon goût sur ce dossier, c'est que ça spoil, mais alors, ça spoil à gogo. Ça divulgâche, oh ma bonne dame, ça divulgâche à ne plus savoir qu'en faire. Alors, bien évidemment, l'exercice est compliqué pour vanter les mérites et le génie de Silent Hill 2 sans en révéler certaines de ses scènes choc. C'est très, très, très compliqué. Mais je pense qu'il aurait fallu peut-être l'indiquer un peu plus spécifiquement au début de l'article. Et je trouve Christophe Collet très dur sur Silent Hill 3, puisqu'il a l'air de dire que le 3, vraiment, voilà, n'est pas tip-top. J'ai adoré Silent Hill 3, je le trouve exceptionnel, hein. Il reste vraiment excellentissime à mes yeux. Il ne vaut pas le 2, certes, mais avec une thématique principale qui diffère et une couleur, dirais-je, autre hein, que celle dont est drapé Silent Hill 2, il n'en reste pas moins un excellent jeu hyper marquant, pas autant que le 2, nous sommes d'accord, mais en tout cas, je le conseille à tous. Attention en tout cas, je ne sais plus si c'est précisé dans ce dossier, il ne me semble pas que la réédition HD sur PlayStation 3 de Silent Hill 2 et 3 est profondément dégueulasse et ne rend pas hommage hein, au jeu d'origine, puisqu'il a fallu recoder une grande partie du moteur, des assets, bref. Konami n'a pas pris soin de garder comme il se doit le code source et toutes les ressources du jeu. Donc je vous conseille les versions PS2, hein, vraiment, si vous le pouvez. Et comme je le dis très souvent, par rapport à un jeu de Quantic Dream, hein, vous reprenez les expressions du visage de Silent Hill 2, ça défonce tous les jeux de David Cage. Bah, bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Oui, et parmi donc les dossiers que j'ai bien appréciés dans ce nouveau numéro, c'est le dossier Jaguar, hein, qui est très intéressant et qui revient notamment sur la plantade et sur la pantalonnade hein, complète, on peut le dire, d'Atari à ce niveau-là. J'avoue que c'est assez savoureux, puisque je vais encore faire mon vieux con, mais moi j'ai vécu ça à l'époque en direct live, et c'est vrai que la Jaguar c'était la tueuse des 32 bits japonaise, rendez-vous compte. Et en fait, bon, on sait comment ça s'est passé. En tout cas, c'est assez intéressant, ce n'est pas qu'à charge non plus, hein, puisque le dossier rappelle les peu nombreux mais excellents jeux de la console, notamment cet Alien vs Predator hein, qui a marqué beaucoup de monde. En tout cas, c'est très intéressant, très bien écrit. Ce numéro de Vidéo Gamer Rétro est excellent, voilà, j'hésite pas à le dire. Autant j'ai été très critique sur le précédent, celui-ci je le trouve excellent. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers très agréables, très bien écrits. Le contenu est très, 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 très dense. Vraiment, on a de quoi lire. Hein. Sérieusement, on a de quoi lire. Rajoutez à ça les news rétro, plein de petites rubriques rigolotes. C'est plutôt bien écrit. Et la maquette, même si elle est sans surprise pour un magazine qui se dit rétro, on tombe dans certains poncifs du genre, notamment au niveau des polices, au niveau de la maquette, mais ça fait le taf, c'est très agréable à lire, c'est coloré, c'est graphique, c'est pixelisé, j'ai envie de vous dire, c'est très agréable. Les défauts du magazine, c'est justement à être trop généreux. Alors, vous allez dire que j'exagère peut-être, parce que comment critiquer la générosité ? C'est un peu bordélique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop regardé. Je pense que la couverture y est pour beaucoup, parce qu'il faut le dire, la couverture est moche. Heureusement qu'il y a cette art de Dragon Ball en couverture qui rehausse un peu le tout, mais c'est vrai que les éléments sont placés ici et là, comme ça, détourés à droite à gauche, en vrac. Je pense qu'il y a vraiment un gros boulot à faire sur la couve qui ne fait pas très sérieuse, et c'est dommage que ça reflète pas le contenu qui est vraiment de grande qualité. Donc la couve est un peu foutraque, et quand on rentre dans le magazine, ça aide pas. C'est-à-dire qu'on voilà, il y en a partout, on ne sait pas trop regarder, mais au final, il s'avère que c'est comme une qualité, vu que vous avez beaucoup de lectures quand même à vous mettre sous la quenotte. Y a des petites boulettes aussi, bon, ici et là, mais ça, c'est comme d'hab. Du temps où j'écrivais pour la presse jeux vidéo, il m'est arrivé d'en faire aussi. Ça, quand on bosse, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on écrit H24 limite, c'est normal. Voilà, des boulettes, ça arrive, c'est la fatigue. Celle que voilà, qui m'a un peu gêné, c'est sur les jeux de 1997 ou sur le petit encadré traitant Final Fantasy VII. On parle de musique orchestrale, de belle musique orchestrale pour Final Fantasy VII, ce qui est complètement faux, vu que c'était du MIDI tout pérave et qui avait vachement déçu les fans, moi y compris, à l'époque. Et si vous ressortez certains tests, certaines critiques de l'époque, certains, en sortant d'FF6, on s'attendait sur PlayStation, support CD, à avoir des musiques orchestrales de fou, et on se retrouve avec un MIDI qui était même plus faiblard, je trouve, que ce qu'on pouvait entendre au niveau échantillon sonore sur Super Famicom. Et ça ne retire en rien la grande qualité de la bande-son, les extraordinaires compositions de Nobuo Uematsu, mais c'est vrai qu'elles étaient un peu mises à mal avec ce son MIDI un petit peu pourri, alors qu'en face, du côté de chez Enix, notamment, quand on écoutait du Star Ocean 2 et les compositions de Motoi Sukuraba, là, on avait de l'orchestral, mais qui pétait les oreilles, c'était magnifique, et c'était hyper frustrant sur Final Fantasy VII d'avoir du MIDI tout pérave. C'est pas bien méchant, mais je dirais que ça m'a, cette réflexion m'a sauté aux yeux. Le magazine est un petit peu cher. Alors, 6,90, vous allez me dire que c'est pas non plus la mer à boire, qu'on trouve beaucoup plus cher ailleurs, mais on trouve moins cher également. C'est un petit peu cher, c'est-à-dire que c'est un défaut, oui, non. C'est-à-dire que je pense qu'on en a quand même pour son argent. Hein. Le magazine est vraiment bien, bien, bien garni. Mais c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut les sortir. À vous de voir. Je dirais que si vous êtes un accro du rétro tel que moi, hein, que vous étudiez ça depuis très longtemps, que ça vous passionne, que vous écumez les sites de part et d'autre sur le net spécialisés et les revues spécialisées et les ouvrages, je dirais, dédiés à ce domaine, vous n'apprendrez pas forcément beaucoup de choses, mais il est vraiment très, très bien garni, puis il y a des dossiers vraiment qui reviennent sur des machines, parfois sur des séries qui sont pas forcément les plus traitées, donc ça tombe pas forcément toujours dans la facilité. Pour conclure, je dirais que j'étais agréablement surpris et je ne regrette pas d'avoir acheté ce magazine. Je l'ai vraiment parcouru avec beaucoup de plaisir, et si vous avez envie de lui donner une seconde chance, parmi peut-être certains d'entre vous qui ont été déçus auparavant par les anciens numéros, ben je pense que celui-ci mérite qu'on lui donne sa chance. Par contre, attention vraiment à la couverture, voilà, attention à la couverture, et peut-être faire un sommaire dans le magazine, une structure un peu moins foutraque, je pense que ça pourrait être pas mal. C'est facile à dire, hein, je sais bien, mais déjà, voilà, si on s'occupe de la couve et que le prochain numéro est aussi intéressant et dense, j'ai envie de dire, ce serait bonheur.